Bonsoir, Raphaël Baquet. Donc je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest. Je suis ravi d'animer cette rencontre autour de Richie, votre dernier livre. Donc je vais très classiquement commencer par vous présenter. Vous êtes diplômé de Sciences Po Paris. Vous êtes sorti de Sciences Po Paris en 87, je crois.
Oui.
Ensuite, vous êtes passé par le CFJ, qui est une des plus grandes écoles de journalisme qui est située à Paris. Vous avez été diplômé du CFJ en 1988. Vous entrez au Parisien en 1992. Vous rejoignez Le Monde en 1999 comme journaliste politique. Et à présent, au Monde, vous êtes grand reporter. Et on perçoit bien, quand on lit vos papiers dans Le Monde ou dans Le Monde M, au-delà de la politique, votre sujet, je crois, c'est surtout la fabrique du pouvoir, la fabrique de l'influence, dans les sphères politiques, mais aussi dans les sphères médiatiques, artistiques, culturelles, économiques. Et vous avez dans vos livres, puisque Richie, je crois, est votre septième livre, peut-être que je fais erreur,
vous avez sans doute raison.
Une prédilection pour les héros du pouvoir, pour ces personnalités qui... On connaît des trajectoires vertigineuses dans l'ascension et dans la chute. C'est en tout cas le lien que, en tant que lecteur, je fais entre vos deux derniers ouvrages, Les Strauss-Kahn, coécrit avec Ariane Chemin, et donc Richie, sur la vie de Richard Descoings. Vous vous intéressez à des personnalités qui sont à la fois hyper douées et hyper fragiles. Peut-être que les deux sont liés, des personnalités qui donnent beaucoup et qui prennent beaucoup. Si bien que quand on lit vos papiers, quand on lit vos livres, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que le pouvoir n'appelle pas fatalement ce genre de personnalité hors normes? Est-ce que dans nos monarchies contrariées, l'exercice du pouvoir n'exige pas une forme de folie, loin de la présidence normale dont on nous parle souvent? Voilà, ça sera un sujet de conversation pour nous. C'est notre sujet du bac de ce soir. Mais avant, commençons par Richie. Donc Richie, c'est Richard Descoings. Richard Descoings, il naît et grandit dans la grande bourgeoisie parisienne. Il passe par l'ENA, il est conseiller d'État. En 1996, il devient directeur de Sciences Po Paris. Il a 38 ans, je crois. Il va diriger Sciences Po Paris de 1996 à 2012, pendant 16 ans. Il va considérablement révolutionner Sciences Po Paris. Alors, très schématiquement, en rendant l'école beaucoup plus internationale et en la diversifiant au plan social, plan de la mixité sociale. Richard Descoings, vous décrivez une personnalité à la fois extrêmement douée, extrêmement borderline. C'est un pur produit des élites et c'est aussi, à certains égards, un outsider. Il est adoré et controversé. Il a passé 16 années au cœur, justement, de la fabrique du pouvoir. Donc, c'est un sujet en or. Et souvent, les sujets en or, il faut déjà y penser. Alors, ma première question, c'est comment vous est venue l'idée de vous consacrer un livre à Richard Descoings, que vous avez rencontré une fois, je crois?
Oui, je le connaissais mal, sans doute comme vous, d'ailleurs. J'en avais entendu parler. Enfin, j'imagine que vous aussi, vous aviez entendu un peu la publicité qui avait été faite autour de quelques réformes, hein, notamment lorsqu'il avait fait rentrer des jeunes issus de lycées de ZEP à Sciences Po, ce qui paraîtrait tout à fait normal de diversifier le recrutement des élites, mais qui était une révolution à l'époque. Donc, je le connaissais mal, c'est vrai, je l'avais rencontré une fois, et à vrai dire, ça s'était passé de façon un peu trouble, parce que je pense avec le recul qu'en fait, il était ivre le jour où je l'ai rencontré. Mais je ne savais pas très bien sur quel pied danser et à quoi m'en tenir le concernant, parce que c'est très rare, moi, qu'il y ait souvent des rendez-vous avec des personnalités... qui ont des responsabilités. Il est quand même très rare de tomber sur quelqu'un qui est ivre, surtout là, pour le coup, à la tête d'une école. Mais c'était donc un personnage dont on connaissait les réformes, les réformes plutôt positives d'ailleurs, mais sans vraiment s'être penché sur ce qu'il était. Et c'est vrai que j'ai d'une certaine façon eu envie de faire ce livre à son enterrement. C'est un peu curieux, mais C'était un enterrement tout à fait spectaculaire. Je ne sais pas si vous en avez vu quelques images dans les journaux télévisés, car il a été largement couvert par les médias à l'époque, mais c'était un enterrement digne de celui d'un chef d'État. À l'église Saint-Sulpice, donc au cœur de Paris, cette très belle église, très grande, très importante, qui était absolument comble. Il y a 3500 places à l'intérieur, toutes les places étaient occupées, et dehors, sur le parvis, il y avait encore un bon millier de personnes. Et c'était vraiment une assemblée extravagante. À la fois, il y avait une brochette de ministres, les plus grands patrons, des grands banquiers, des grands professeurs, bien sûr. Beaucoup d'étudiants en larmes, avec une rose blanche à la main. Et puis, au banc des familles, cette curiosité supplémentaire, si vous voulez, qui était debout côte à côte, la femme de Richard Descoings et, en fait, celui qui avait été son amant et son compagnon pendant presque 30 ans, Guillaume Pépi, et qui était salué pareillement, si vous voulez, par tous ceux qui venaient faire un discours, y compris par le prêtre, qui avait commencé son sermon d'un « cher Guillaume, chère Nadia ». Donc évidemment, tout ça donnait une espèce de début assez romanesque, hein, qui m'a donné envie de me pencher sur lui. Et je dois dire, je n'ai pas été déçue parce que j'ai découvert un personnage que je n'imaginais même pas d'ailleurs, un personnage incroyablement haut en couleur, tumultueux et assez révélateur d'une certaine façon à la fois de nos élites, comme vous l'avez dit, et puis aussi de notre époque, puisqu'il était vraiment du sérail et en même temps il avait un pied dehors. Il était un homme double, à la fois donc vraiment énarque, conseiller d'État, et en même temps toujours soucieux de bousculer cet État et ses élites. Il était à la fois homosexuel et marié à une femme. C'était un homme qui le jour était en costume cravate, tout ce qui est de plus conformiste, et puis le soir allait dans les boîtes les plus folles de Paris. Bref, c'était un personnage assez étonnant.
Et pourquoi, d'après vous, il avait un pied dehors, comme vous dites? Pourquoi, d'où vient ce goût qu'il avait, qu'il a mis en pratique à Sciences Po, hein, de transgresser les usages, de cette puissance à réformer les choses?
D'abord, c'est une question, effectivement, enfin, c'est une interrogation que j'ai, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut bousculer un peu les élites dans notre pays? Et Dieu sait qu'elles sont quand même assez sclérosées, hélas. Si on n'en est pas soi-même issu. Et je pense qu'il est vraiment le stéréotype absolu des élites. Hein. D'abord, il est parisien, vous l'avez dit, une famille bourgeoise, il a fait tous les grands lycées de la République, enfin à Paris, bien sûr. Henri IV, Louis le Grand, il fait Sciences Po, il fait l'ENA, enfin, c'est vraiment une caricature. Hein. Et puis, en même temps, je pense qu'il fait ce pas de côté. C'est probablement lié aussi à son homosexualité, qui fait qu'il n'a pas suivi tout à fait le chemin linéaire qu'auraient rêvé pour lui ses parents. Et puis, sans doute à son caractère, un caractère assez volontiers transgressif.
Combien de temps a duré votre enquête? Est-ce qu'il a été difficile pour vous d'avoir des infos? Est-ce que vos interlocuteurs acceptaient de parler assez librement de Richard Descoings? C'était un peu compliqué, justement, parce qu'il y avait des zones d'ombre que tout le monde connaissait plus ou moins, mais qui étaient sans doute sensibles, en particulier après sa mort.
En fait, j'ai pas eu tellement de difficultés à faire parler les gens, parce que vous savez, on en a tous fait l'expérience, quand on a le sentiment d'avoir connu une personnalité hors du commun, d'avoir vécu un épisode un peu extraordinaire. Au fond, on a envie d'en parler. Et donc, les gens m'ont parlé assez volontiers. La difficulté, c'était plutôt la diversité des milieux à embrasser, si vous voulez. Il fallait que j'aille à la fois dans les cabinets ministériels, le Conseil d'État, Sciences Po, bien sûr, et puis aussi dans les boîtes, me faire raconter ce que c'était que les boîtes gays de l'époque, les backrooms, que j'aille rencontrer des escort boys, les deux escort boys qui avaient vu Richard Descoings le soir de sa mort, hein, les deux prostituées. Il fallait que je parle à des étudiants. Et que... Alors, les étudiants, d'ailleurs, c'est une curiosité supplémentaire, c'est que c'est... Alors, là, je dois dire que je n'avais jamais eu un sujet où mes témoins sont très jeunes, par exemple. Et là, c'est la première fois que j'avais autant de témoins de 20 ans. Et C'est vrai que les étudiants arrivent avec tous les textos de Richard Descoings, tous ces messages Facebook. J'ai disposé vraiment d'une sorte de correspondance, si vous voulez, que d'une certaine façon, je n'ai pas livrée en tant que telle, parce que ce serait vraiment un viol de la vie privée, mais qui m'a beaucoup aidée à brosser son caractère. Mais donc, c'est plutôt la diversité de ces milieux, si vous voulez, qui faisait à la fois l'intérêt de l'enquête. Je dois dire, je me suis aussi bien amusée, oui, il faut bien le dire. Mais en même temps, les gens m'ont parlé relativement facilement.
Et l'enquête a été longue ou
Très longue, oui. Ça a duré 2 ans et demi.
D'accord.
Donc, bon, alors je travaille en même temps, hein. Comme vous l'avez dit, je travaille au Monde, donc je n'écris pas à plein temps des livres, mais c'est vrai que j'ai vu une centaine de personnes. Il fallait voir beaucoup de monde pour pouvoir retracer ce caractère tellement bipolaire, compliqué, trouble, et toutes ces périodes de sa vie si contradictoires d'une certaine façon, entre l'énarque insignifiant et le militant homosexuel de aide contre le sida, ou au contraire l'ancien des cabinets ministériels du cabinet de Jack Lang, ou le directeur de Sciences Po. Il y avait vraiment des mondes qui paraissaient contradictoires, et il fallait retrouver le fil et ce qui fait l'âme humaine, hein, ce qui est le plus compliqué à brosser quand on écrit un livre.
Les étudiants, vous en parliez, ils adoraient Richard Descoings. Il le considérait comme l'un des leurs. Il avait un rapport comme ça d'empathie immédiate, je crois sincère. Hein,
oui, bien sûr.
Avec les étudiants, c'est étonnant pour quelqu'un qui par ailleurs a des responsabilités importantes et qui s'est accompli dans la vie.
C'était même tout à fait exceptionnel. Mmh. À vrai dire, c'est la première fois qu'on voyait un président comme ça de grande école ou d'université, si vous voulez, adulé, parce que c'était une adoration étonnante, un peu gênante aussi, parce que. D'abord, bon, c'est pas très compliqué non plus d'emballer un amphi, si vous voulez. Hein. Des jeunes gens de 20 ans, évidemment, ils sont prêts à vous admirer assez facilement. Mais quand même, on est dans une école qui vous apprend, si vous voulez, la distance nécessaire, la modération, qui vous apprend à vous méfier de l'emballement des foules. Hein. À Sciences Po, c'est ça qu'on apprend, à vrai dire. C'est le béaba des cours de Sciences Po. Or là, c'était tout le contraire. Je me souvenais, j'avais rencontré Richard Descoings une fois, mais en revanche, j'en avais entendu parler, pas seulement par les médias. Je me souviens qu'une fois, j'avais traversé Sciences Po tout à fait incidemment, et on entendait vraiment du hall ce qui se passait dans l'amphi principal, l'amphi Émile Boutmy, où vraiment tout l'amphi criait en tapant sur les pupitres, hein, Richie, Richie, vraiment, en allumant des briquets. Enfin, on a l'impression que Johnny Hallyday allait arriver, quoi. C'était vraiment stupéfiant dans ce milieu où le quart des élèves vont devenir des énarques. Enfin, vous voyez, c'est un milieu quand même assez conventionnel, il faut bien le dire. Et là, c'était vraiment, vraiment incroyable.
Vous pensez qu'il s'abandonnait à cette faveur, qu'il en avait besoin dans sa propre... Peut-être c'était un miroir, voilà, qui le rassurait.
Je pense qu'il s'y plongeait avec délice. Mmh. Il s'y plongeait avec délice et en même temps avec une insatisfaction continuelle. Parce que quand on cherche à être adulé, si vous voulez, on n'est jamais satisfait. Mmh. Si on cherche simplement à être aimé, ça peut marcher. Mais l'idolâtrie, l'adulation, si vous voulez, c'est jamais suffisant. Donc évidemment, il en jouissait et en même temps, sans y trouver vraiment sa satisfaction, il utilisait aussi, il faut bien le dire, les étudiants comme un vivier. Parce que ce qui m'a aussi frappée en enquêtant sur lui, c'est à quel point il avait dragué ses étudiants, ce qui est quand même tout à fait rare. Alors bon, on a mis l'exemple de professeurs qui épousent leur étudiante, mais enfin là, vraiment, il avait une relation quand même très très... De séduction très clairement affichée avec ses étudiants aussi. Donc, ce qui est une curiosité supplémentaire, si vous voulez, encore une fois, dans ce milieu de Sciences Po.
Et en fait, l'histoire de Richard Descoings, c'est aussi l'histoire d'un directeur de Sciences Po qui dirige Sciences Po à contre-courant des principes qui sont enseignés à Sciences Po, à savoir qu'il abolit toute distance avec les étudiants, donc finalement, toute forme de hiérarchie. Plus grave, sans doute, Sciences Po, le temple, voilà, de l'équilibre des pouvoirs, de la modération, de la vertu, soi-disant. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que ces éléments aient caractérisé notamment la fin de son règne, entre guillemets, à Sciences Po, puisque vous décrivez aussi forme de vacillement à partir du milieu des années 2000. Opacité, mélange des genres, puisque il épouse son adjointe. Et puis, courtisanerie.
Oui, je crois que son parcours dit assez bien. Il a fait des choses très positives, mais son parcours dit assez, hélas, le fonctionnement de nos élites, d'une certaine façon. Il est à la tête de l'école du pouvoir, si vous voulez, l'école dont sont issus généralement les deux tiers des ministres, beaucoup de présidents de la République, hein, 4 ou 5, une grande partie des journalistes aussi, la preuve. Et en même temps, si vous voulez, il s'asseyait absolument sur toutes les règles que le pouvoir, les gouvernements imposent aux autres. Donc, il ne faisait jamais d'appel d'offres pour passer ses marchés. Il était financé par l'État et l'État, il n'y avait aucun représentant de l'État en tant que tel, si vous voulez, du ministère de l'Éducation nationale, qui était sa tutelle, son ministère de tutelle, au sein de son conseil d'administration. Il s'est attribué des primes absolument mirobolantes, enfin vraiment à lui et à sa femme, hein, puisque vous l'avez dit effectivement, il a épousé Nadia Maric et il en a fait son numéro 2. Encore un conflit d'intérêts qu'on apprend dès la première année à Sciences Po, que surtout il ne faut pas faire ça. Donc d'une certaine façon, on voit bien le fonctionnement, c'est-à-dire que était permis dans cette école dont sont issues les élites et dans laquelle ils mettent leurs enfants, tout ce qu'on ne permet pas par ailleurs aux autres écoles et surtout aux universités. Et là, je trouve que ça en dit long aussi quand même sur nos dérèglements, hein, d'une certaine façon, et nos contradictions. Et ça a été jusqu'à sa chute, effectivement.
Alors, justement, c'est une question dont on parlait l'autre jour au téléphone. On a l'impression que c'est toujours la même histoire, que finalement, que ce soit Richard Descoings, Dominique Strauss-Kahn, il y a une forme de vertige à un moment. On bascule, on s'isole, on perd pied. Est-ce que fatalement, l'histoire du pouvoir est celle-ci ? Est-ce que l'histoire du pouvoir en France, est-ce que nos élites sont fabriqué de telle sorte que c'est à un moment ce scénario il est inévitable.
Heureusement, toutes nos élites ne basculent pas dans la folie. Mais c'est vrai qu'en France, à cause d'une absence de contrôle d'une certaine façon d'une forme d'enfermement du pouvoir, si vous voulez, on peut facilement basculer. Et c'est vrai que Richard Descoings, c'est vraiment son cas. C'est-à-dire que il fait venir au sein de son conseil d'administration tout ce qui compte dans la République, hein, le parrain de l'inspection des finances, Michel Pébrot, vous savez, c'est cet homme qui depuis 40 ans fait la leçon à tous les ministres de l'économie successifs. Il y a les vice-présidents de la Cour des comptes, le vice-président du Conseil d'État, bref, il y a tout ce qui compte, si vous voulez, dans la République, dans son conseil d'administration, donne des cours à Sciences Po, tous les députés battus ou les députés en fonction. Il attribue un cours à la femme du conseiller budgétaire du ministère de l'Éducation nationale. Comme ça, c'est plus facile de négocier. Voyez, il y avait une forme de d'utilisation des prébendes, hein, pour effectivement s'acheter la paix. Et il n'a pas été contrôlé. Et je crois que ça participe à cet emballement. Et à la fin, effectivement, il dirigeait Sciences Po avec sa femme, à deux, comme un couple autocratique, et s'attribuant en effet des pouvoirs exorbitants et des primes insensées. C'est la simple révélation, et encore à l'époque, on n'en a révélé qu'un tout petit bout, si vous voulez. C'est la simple révélation de ces salaires qui, tout d'un coup, a choqué, alors que tout le monde pensait, au fond, que bon an, mal an, il était au même niveau que un président de la Sorbonne ou éventuellement un président d'HEC, si vous voulez. Or, lui, il se comparait au président de Harvard. Donc, ça n'avait rien à voir. Évidemment, d'abord, ce sont les salaires américains. C'est une université, évidemment, 10 fois plus importante que Sciences Po, et c'est une université qui fonctionne sur des fonds privés. Donc, on n'était pas du tout dans la même échelle. Et je crois que cet enfermement, cet emballement, est lié à l'absence de contrôle, au succès médiatique aussi, et une absence de contrôle des médias. Alors, je dois le dire, moi qui suis journaliste, c'est vrai que j'aurais dû, par exemple, m'intéresser à lui de son vivant. Et la presse aurait dû s'intéresser vraiment à lui. Or, ne suivait Richard Descoings que les spécialistes d'éducation, non pas qu'ils soient moins compétents que d'autres, bien sûr que non, mais du coup, il ne suivait que ses réformes éducatives et non pas la façon dont il exerçait le pouvoir. Et donc, on n'enquêtait pas sur lui. C'est vrai que personne n'enquêtait sur lui.
Et alors, l'une des manifestations aussi de ce vacillement, c'est le mélange des genres et le mélange vie privée, vie publique avec... un comportement qui peut paraître très imprudent a posteriori. Là aussi, ça n'est pas l'apanage de Richard Descoings. Souvent, les hommes de pouvoir, dans une certaine étape, un certain degré de notoriété et de responsabilité, tombent dans ces pièges qui paraissent pourtant énormes. Comment vous l'expliquez, cette forme de...
D'abord,
l'imprudence fondamentale,
quand on a des postes, enfin, je ne veux pas généraliser encore une fois parce qu'il y a des gens qui exercent le pouvoir de façon tout à fait vertueuse. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une forme d'enfermement qui est liée aussi à l'engagement entier, si vous voulez, dans lequel on est. Et Descoings, il ne faisait que ça. Hein. Il travaillait comme un fou, il faut bien le dire. Donc, il a assez vite, c'est vrai, mélangé vie privée et vie publique. À vrai dire, toute sa vie a été un grand mélange des genres. Mais c'est assez fréquent. Quand on regarde les hommes de pouvoir, souvent, ils mélangent vie privée et vie publique. Et lui, vraiment, il l'a fait. Et c'est évidemment l'exemple le plus éclatant est d'avoir nommé sa femme comme son numéro 2, hein, bien sûr. Donc, au vu et au-dessus de tout le monde, si vous voulez, sans que personne ne proteste. Sans que personne au sein de Sciences Po ne proteste, sans que le ministère de l'Éducation nationale ne dise quoi que ce soit, sans que le gouvernement qui a vraiment encore une fois sous sa tutelle Sciences Po et qui regarde toujours comment fonctionne Sciences Po, puisque c'est de là souvent que sortent les futurs énarques, personne n'y a trouvé rien à redire. Et je pense que ça, ce grand mélange des genres, si vous voulez, a aussi participé à sa folie. Hein. Mmh. Et c'est vrai qu'il a écarté ses opposants et il a été dans une très grande confusion au point que lorsque effectivement on lui a reproché ses salaires et les primes qu'il s'attribuait, il ne l'a pas compris.
Ah oui.
Il est vraiment tombé de haut, considérant que c'était scandaleux qu'on puisse lui reprocher à lui qui faisait tant pour l'école.
Il travaillait tout le temps.
Il ne voyait pas ce qu'il pouvait y avoir de choquant. Or, c'était très choquant. Et je pense que le scandale qui a éclaté dans les derniers mois de sa vie a beaucoup contribué d'une certaine façon à sa mort. Parce que... un homme comme ça qui ne peut imaginer une remise en question, enfin je ne veux pas faire de la psychologie de comptoir, mais c'est d'une certaine façon quand on reconstitue sa vie et quand on retrace son parcours, on s'aperçoit bien qu'il n'avait pas d'autre issue que de mourir, d'une certaine façon.
Alors, pour finir sur cet aspect vertige du pouvoir, peut-être aussi qu'il y a une responsabilité qui vient de nous, journalistes et de nous, citoyens, qui demandons à nos élus ou à ceux qui nous gouvernent un engagement total, quotidien, 7 jours sur 7, et qui finalement, la densité de cet engagement fait qu'en effet, à un moment, les frontières entre vie privée et vie publique, elles disparaissent. Est-ce qu'on n'a pas une exigence trop forte, finalement, par rapport à l'attente qu'on place
En tout cas, on a...
nous, médias, qui sollicitons vraiment...
Bien sûr, on a tendance à tellement personnaliser le pouvoir, si vous voulez, que... du coup, une école, une institution ne peuvent être incarnées que par une figure, un homme ou une femme. Et évidemment, ça concentre tous les pouvoirs. Alors, c'est peut-être notre grande tradition centralisatrice, hein, qui est très, très française, d'une certaine façon, mais puis doublée de notre nostalgie monarchique. Mais c'est vrai que, évidemment, cette façon d'exercer le pouvoir ne se retrouve pas dans d'autres pays. jamais, si vous voulez, même justement dans les universités américaines, qui étaient le modèle pour Richard Descoings, jamais les présidents d'universités américaines ne dirigent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme de collégialité quand même très, très importante. Ce n'était pas du tout le cas à Sciences Po. Vraiment, il dirigeait seul. Son conseil d'administration ne faisait que valider tout ce qu'il décidait et sa femme mettait en œuvre ses décisions. Donc il y avait vraiment... Un pouvoir très très autocratique et univoque qui ne se retrouve pas du tout dans des universités similaires à l'étranger.
Alors Richard Descoings, il a pu mettre en route, mettre en œuvre même des réformes majeures à Sciences Po, notamment concernant la mixité sociale, puisqu'il a permis à des lycéens de ZEP d'intégrer Sciences Po par une voie parallèle. Alors je crois qu'il y a à peu près 1 000 d'étudiants hein, à ce jour qui sont issus de cette filière. Comment ça marche ? Est-ce que les résultats sont convaincants ? Et est-ce, je ne crois pas que ce dispositif ait fait des émules en fait, dans l'enseignement supérieur. Il a provoqué beaucoup de débats à l'époque, mais je ne crois pas qu'il ait été reproduit...
En fait, dans le mode qui a été choisi par Sciences Po, non, il n'y a que Sciences Po qui fait ça. Mais ça a fait réfléchir quand même toutes les universités, les grandes écoles, à la diversité et à la façon d'ouvrir leur recrutement. Donc ça, c'est plutôt bien. À vrai dire, ça en dit long aussi, encore une fois, sur notre société. C'est-à-dire que cette réforme qui a fait tant de bruit, elle est, si on regarde en... purement quantitativement, si vous voulez, c'est assez marginal. Effectivement, 1 000 000 de jeunes gens en 12 ans aujourd'hui, c'est pas beaucoup. C'est même rien du tout. Et à vrai dire, on aimerait qu'il y en ait quand même beaucoup plus, que ça soit beaucoup plus brassé, si vous voulez. Donc on voit à quel point c'est difficile. Mais ce qui m'a frappé en reconstituant cette histoire et en retrouvant les débats qui avaient été... qui avait suscité cette réforme, c'est quand même l'énorme résistance, et pas seulement des élites.
Des étudiants aussi.
L'énorme résistance des étudiants. Vous verrez, si vous lisez le livre, à un moment donné, il réunit un amphi, il fait une grande réunion avec les étudiants pour que les étudiants acceptent cette réforme, parce qu'il sait qu'il ne peut pas aller contre les étudiants non plus. Et vraiment, la levée de boucliers des étudiants, donc de jeunes gens de 20 ans qui refusent de voir, d'une certaine façon, leurs semblables venus de banlieue les rejoindre, c'est vraiment incroyable. Et on a l'impression d'être dans un débat d'un autre âge. Vraiment, j'ai été très étonnée de retrouver ça, de voir à quel point... vraiment, ces jeunes gens privilégiés qui pouvaient être à Sciences Po avaient vraiment eu envie de fermer la porte derrière eux, quoi. Et à quel point ils s'étaient élevés de façon très, très véhémente et très conservatrice contre une réforme qui, franchement, ne dénaturait pas le diplôme. Or, sous couvert de défendre le concours et l'égalité de tous devant le concours, au fond, il défendait quand même le fait que perdure une forme d'élitisme, si vous voulez, qui est formidable élitisme au niveau intellectuel. Mais la réalité, c'est que c'est un élitisme social, surtout. Et donc, vraiment, c'était très frappant de voir cette résistance. Et aujourd'hui encore, si vous alliez à Sciences Po, c'est très facile de rentrer à Sciences Po. Si vous venez à Paris, vous verrez, vous rentrez, vous pouvez aller jusqu'à l'amphi principal. Et à vrai dire, on reconnaît encore les jeunes gens qui sont issus des ZEP. Non pas parce que ce sont des beurs ou des jeunes gens noirs, mais surtout parce qu'ils sont à part. Et c'est vraiment difficile. Et le mélange se fait, à vrai dire, dans les années ultérieures. Mais les premières années sont vraiment difficiles. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une difficulté, vraiment, à mélanger les catégories sociales, y compris à 20 ans. C'est désolant. Mais alors, heureusement, après, dès qu'on arrive dans les 2e ou 3e années, et jusqu'à la fin des études, là, vraiment, le mélange est fait et on voit qu'il n'y a plus de difficultés.
Et y a-t-il aujourd'hui des héritiers de Richard Descoings, des dirigeants d'écoles qui travaillent un peu, qui creusent un peu ce sillon de la, de la diversification sociale, de l'ouverture, de la mixité, ou est-ce que finalement c'est une préoccupation qui est reléguée,
Non, il y a l'ESSEC, par exemple, est dirigé par un homme très très bien qui s'appelle Jean-Michel Blanquer, qui est un type très innovant, justement. Alors voilà un dirigeant vertueux, si vous voulez. C'est un homme très innovant et qui a à cœur à la fois d'internationaliser son école, de lui garder le niveau important qu'elle a comme école de commerce, et en même temps de l'ouvrir socialement et de faire rentrer des talents un peu différents. Donc le directeur d'HEC aussi est quand même assez ouvert, je parle des grandes écoles, hein. Mais par exemple Polytechnique, vous voyez, alors Polytechnique, bon, c'est un cas particulier parce que les maths sont moins ségrégatives que les sciences humaines, hein. Donc il y a de fait un peu moins d'hyper-homogénéité sociale à Polytechnique. Mais en même temps, c'est une école qui reste assez recroquevillée sur elle-même. Et d'ailleurs, tout le défi d'aujourd'hui, c'est de s'ouvrir et de s'internationaliser et de diversifier aussi son recrutement. Parce que, enfin, on le sait tous, si on veut que notre pays soit plus dynamique, il faut justement faire en sorte que les talents ne viennent pas toujours des mêmes voies. Or, le vrai problème de souvent, surtout de nos élites politiques, mais même de nos élites tout court, c'est d'être quand même hyper homogène, hein, et malheureusement de venir toujours à des mêmes formations et donc de ne pas assez être brassé, diversifié, original et créatif, donc.
Alors, j'ouvre juste une parenthèse. Il me semble, j'en suis d'ailleurs sûr, que dans la foulée de ce qu'a fait Richard Descoings à Sciences Po Paris, ici à Sciences Po Bordeaux, un dispositif a été mis en place qui est différent, oui. Parce que c'est pas, il ne s'agit pas d'un concours bis ou d'une filière bis. En revanche, des profs de Sciences Po Bordeaux vont rencontrer des lycéens de terminale pour les convaincre que Sciences Po, ils peuvent se présenter, ils peuvent tenter le concours, parce que souvent ils ont constaté qu'en fait il y a un blocage culturel, à savoir que des lycéens qui ont tout à fait les compétences ne pensent pas à Sciences Po parce que leurs parents n'y pensent pas et parce que Sciences Po c'est pas dans leur spectre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une opération qui est menée alors dans des quartiers, comme on dit, les banlieues, hein, les quartiers, disons, les périphériques, mais c'est aussi une opération qui est menée dans les communes rurales.
Bien sûr, mais vous avez raison. Alors, je n'ai pas parlé des Sciences Po, justement, parce que les Sciences Po, à vrai dire, ont suivi, effectivement, alors après chacune en aménageant leur modalité, mais ont suivi largement, hein, cette évolution. Donc Sciences Po Bordeaux, vous avez tout à fait raison, est très dynamique. Sciences Po Lille, très dynamique aussi. Et donc, il y a une volonté de diversifier le recrutement, alors soit en allant voir et en parrainant, à vrai dire, et en formant les jeunes dès la terminale, hein, en leur faisant faire c'est sur la base du volontariat, mais on leur fait faire des cours particuliers. Puis d'ailleurs, même s'ils intègrent pas Sciences Po, généralement, ils ont d'abord un bac beaucoup mieux réussi, hein, souvent avec des mentions qu'ils n'auraient peut-être pas obtenues sans cette émulation et puis sans ces cours. Et puis, ils peuvent beaucoup mieux réussir comme ça. Donc, beaucoup de lycées, à vrai dire, ont fait ça. Les lycées plus que les grandes écoles, d'une certaine façon. C'est ça qui est frappant. C'est-à-dire que c'est redescendu à un niveau inférieur et déterminant, qui sont effectivement les lycées qui, souvent, quand ils ont des proviseurs un peu dynamiques, ils ont mis en place des programmes d'accompagnement de leurs étudiants pour que, dès la première et la terminale, ils envisagent autre chose que des études beaucoup plus classiques et plus fermées et plus courtes. Donc, mais à vrai dire, bon, c'est un autre débat, mais évidemment, la formation des générations futures s'amorce bien avant, hélas. Et ce qu'on voit très souvent dans les milieux les plus modestes, si vous voulez, c'est que c'est l'écrémage qui est fait dès la quatrième. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'aller les chercher en terminale, ils ne sont pas là, ils ne sont plus là. Donc ça, c'est vraiment un de nos défis, d'ailleurs, en France.
Donc quand même, l'action Richard Descoings a été un électrochoc quand même.
Bien sûr, ça a été très important. Ça a été très important, d'abord parce que ça a fédéré d'une certaine façon ceux qui voulaient quand même un peu changé l'éducation et qui se trouvait à droite et à gauche. C'est ça qui était intéressant, c'est-à-dire qu'on a vu à ce moment-là que, d'une certaine façon, il y avait des gens de bonne volonté à droite et à gauche. Et à l'époque où Descoings présente sa réforme, c'est en 2001, donc c'est la gauche et c'est la cohabitation, hein, c'est le gouvernement Jospin et le président Chirac. Et à ce moment-là, il est à la fois soutenu par le gouvernement de gauche et soutenu par le président Chirac et soutenu aussi par une partie de la droite. Nicolas Sarkozy, justement, va être, par exemple, son soutien.
On peut dire qu'il évolue, il se rapproche de Nicolas Sarkozy.
Et Nicolas Sarkozy, plus tard, des années après, lorsqu'il sera président de la République, Nicolas Sarkozy songera à faire de Richard Descoings un ministre d'Éducation nationale. Il y songe trop tard, d'une certaine façon, parce qu'il y songe en 2009, lorsqu'il est déjà très, très impopulaire et qu'il est difficile de réformer les choses, et Descoings renonce. Mais on voit qu'il pouvait y avoir, si vous voulez, une espèce de rassemblement transversal entre les familles politiques pour essayer de faire un tout petit peu changer, un tout petit peu, l'éducation dans notre pays.
Alors, dans le Ritchie, vous parlez de la vie privée de Richard Descoings, de son homosexualité. On a lu dans certains papiers que vous décriviez un lobby gay. En action, je ne crois pas que ce soit ce que vous écrivez. Est-ce que vous pouvez nous préciser le décalage entre ce qu'il y a dans le livre et les formules médiatiques qui ont fleuri?
Alors, moi, je n'écris pas un lobby gay. Hein. D'abord, j'écris un monde. Ce qui est frappant chez Richard Descoings, c'est son cercle d'amitié, si vous voulez. Je pense que, d'abord, c'est un cercle d'amitié, donc comme on en a tous... Il est d'une remarquable homogénéité. D'ailleurs, c'en est même agaçant, si vous voulez. Ils se ressemblent tous. C'est-à-dire que ce sont des hommes tous homosexuels, mais surtout tous énarques et tous appartenant au gros corps de l'État. C'est-à-dire qu'ils sont tous soit inspecteurs des finances, soit conseillers d'État, soit à la Cour des comptes. Et d'une certaine façon, ce qui va asseoir leur influence, c'est ça. C'est pas tellement qu'ils soient homosexuels, encore que ça leur crée un lien, évidemment, de proximité, d'amitié. Mais c'est surtout qu'ils sont effectivement dans l'espèce de gratin, si vous voulez, ils sont du sérail. Hein. Et c'est ça qui fait qu'ils vont réussir. C'est d'ailleurs ça qui fait qu'il va être nommé très, très jeune à la tête de Sciences Po. C'est parce que, d'une certaine façon, il rassure tout le monde en étant conseiller d'État. Et là, on voit une forme d'entre-soi, si vous voulez, encore une fois, de nos sociétés, où vraiment le fait d'appartenir à des grands corps de l'État est un élément majeur. On pourrait imaginer que pour diriger Sciences Po, après tout, être un grand professeur ou un bon gestionnaire ou un grand pédagogue pourrait suffire, mais non. C'est le Conseil d'État qui tient cette nomination et au fond le prédécesseur de Richard Descoings, qui était un professeur, est une exception dans l'histoire. C'est presque toujours des conseillers d'État qui tiennent le haut du pavé, si vous voulez. De même que, enfin vous le savez, l'inspection des finances peut tenir certaines nominations, etc. Et je pense que la force d'influence de Descoings et de ses amis, elle est double. Elle est à la fois dans leur amitié et leur cercle homosexuel, et le fait qu'ils soient justement, qu'ils aient tous le même CV, d'une certaine façon. Donc c'est intéressant de voir effectivement à quel point ils se sont fait la courte échelle. Alors là, c'est vrai, entre Guillaume Pépi, donc président de la SNCF aujourd'hui, mais qui connaît Richard Descoings au Conseil d'État, hein, ils font Sciences Po ENA à un an d'écart, hein, tous les deux, et ils se retrouvent au Conseil d'État, comme ils se retrouvent avec Christophe Chantepie, qui plus tard sera le directeur de campagne de Ségolène Royal et le directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault, récemment. D'autres hommes dont vous connaissez, qui n'ont aucune célébrité, si vous voulez, mais ils vont effectivement se faire la courte échelle pour rentrer dans les cabinets ministériels et pour s'aider les uns et les autres à accomplir leur ambition, car ce sont de jeunes ambitieux, comme on peut en trouver depuis toujours.
Est-ce que ça n'est pas finalement assez naturel entre amis?
Oui, voilà, bien sûr.
Finalement, ce sont des amis.
Ce sont des amis, mais si vous voulez, ils se ressemblent tous. C'est ça qui frappe. C'est-à-dire qu'ils ont quand même tous le même CV. C'est ça qui m'a étonnée. Vraiment, leur cercle, et je raconte un peu leur dîner, etc. Vraiment, c'est un cercle, d'une homogénéité insensée. Quoi. Vraiment, c'est étonnant, un cercle comme ça, où tout le monde se ressemble, d'une certaine façon.
Alors, la question que vous avez été posée,
mille fois depuis la sortie du livre, jusqu'où faut-il parler de la vie privée ? En l'occurrence de Richard Descoings, de Guillaume Pépi, vous disiez dans une interview que j'ai lue récemment que quand il s'agit d'homosexualité, les rédactions sont assez timides, en fait, assez très très prudentes. Alors, sans doute parce que parler de l'homosexualité d'un personnage public, c'est aussi l'exposer éventuellement à de l'homophobie. Donc, cette prudence, on peut la comprendre, non ?
Écoutez, moi, à vrai dire, je pense que le devoir d'un journaliste, c'est de raconter la réalité. Donc, après, il y a des lois, des règles, évidemment, auxquelles on doit se conformer. Mais je pense que d'abord, c'est de raconter la réalité. Sur Richard Descoings, il n'a jamais fait mystère de son homosexualité. Hein. Il disait à Sciences Po, je suis le premier PD de Sciences Po, il disait ça en amphi. Donc, vraiment, c'était aussi une forme d'affirmation, de fierté, de provocation aussi chez lui. Donc vraiment, et puis son parcours, si vous voulez, est important. Il a été militant, un des fondateurs de l'association AIDE, qui est une des premières associations qui a milité contre le sida, une association très importante. Je ne me voyais pas raconter une histoire, si vous voulez, raconter son histoire, en amputant sa personnalité de ce qui le constitue, de ce qu'il est. Et en gommant toute une partie de ce qu'il a été, y compris dans le versant le plus noir. Voilà, parce que il est homosexuel, mais enfin, il y a des choses. L'homosexualité, c'est pas une tare. Il y a des choses beaucoup plus contestables chez lui. Il est cocaïnomane, par exemple. c'est un type qui a testé absolument toutes les drogues, si vous voulez, quand on est à la tête d'une institution d'éducation, ça aurait pu lui être beaucoup plus reproché. Vous voyez, donc, moi, je considérais que c'était normal de raconter ce qu'il avait été. Et encore une fois, je ne raconte pas le secret de l'intimité de Richard Descoings. On m'a raconté mille fois toutes les soirées tumultueuses qui étaient les siennes. Et bon, je ne les ai pas racontées. Je vous ai dit tout à l'heure que les étudiants arrivaient avec tous ces messages. Je dis, on aurait pu les livrer comme ça, tel quel. Vous voyez, je ne l'ai pas fait. Donc, je fais très attention à ce qu'on peut raconter ou pas. D'abord, il y a l'écueil de la vie privée, puis il y a l'écueil de la vulgarité, à vrai dire, qui pour moi est presque aussi dangereux. Et donc, je fais très attention à ça. Donc voilà, mais c'est la réalité de Richard Descoings. Et il n'a jamais caché qu'il était homosexuel. Il a d'ailleurs été homosexuel de toutes les façons possibles et imaginables, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il a été à la fois un homosexuel caché lorsqu'il était jeune à l'ENA. Il a été un homosexuel militant lorsqu'il a été à AIDE. Il a été un homosexuel fêtard et débauché, si vous voulez, lorsqu'il sortait dans toutes les soirées très joyeuses du Paris des années 80. Il a été un homosexuel marié avec une femme. Vous voyez, donc, je trouve qu'on peut le raconter de façon très naturelle. Pour moi, c'était pas choquant. Et je pense que ça désamorce tout ce qui peut être choquant ou tout ce qui pourrait susciter d'ailleurs des accusations homophobes. Et d'ailleurs, il n'y en a pas eu, en fait. Vous voyez,
il y a eu plus un débat sur le curseur public-privé que finalement...
Oui, en fait... Je pense que, enfin, quand vous lirez, c'est raconté de façon assez naturelle, à vrai dire. Parce que l'histoire de Richard Descoings et Guillaume Pépi, c'est une histoire... c'est un couple, quoi. C'est un couple. Alors lui, Descoings, il est très, très... c'est un type, vraiment, qui sort énormément, qui est incroyable et qui respecte assez peu les règles. Mais Guillaume Pépi, par exemple, c'est un homme beaucoup plus classique, si vous voulez...
Et vous avez eu un retour de Guillaume Pépi ? Je me posais la question. Non.
Rien.
Et de Nadia Maric, non ?
Rien.
Qui était l'épouse de Richard Descoings ?
Rien.
Ni négatif, ni pas de...
Ils ont fait dire qu'ils ne l'avaient pas lu.
D'accord.
Bon, j'ai un petit doute.
Ça sent la stratégie.
J'ai un petit doute,
stratégie de l'indifférence.
Mais libre à eux. En tout cas, ils m'ont pas... ça n'a pas été... ils n'ont pas cherché à m'en empêcher. Donc, ils ont été tout à fait... réglo, si vous voulez. Guillaume Pépi a plus essayé, parce qu'il connaît absolument la terre entière. Mmh. Hein. C'est un homme qui a un gros réseau. Quand vous dirigez la SNCF, je peux vous dire que tout le monde vous sollicite. donc voilà, juste avant la sortie du livre,
ils n'ont pas répondu à vos questions d'ailleurs.
Ils n'ont pas voulu. Bon.
Même en off.
Il faut dire aussi, je pense qu'ils sont dans une position compliquée. Hein. C'est-à-dire que Nadia Maric, d'abord, vous savez que la Cour des comptes a renvoyé devant la justice plusieurs dirigeants Sciences Po, dont Nadia Maric. Donc, je pense qu'elle est dans une position difficile. Hein. Et puis, quant à Guillaume Pépi, ce n'est pas seulement sa vie privée, si vous voulez. D'abord, il conseillait Richard Descoings. Lorsque les étudiants partaient à l'étranger pour les séances de diplomation, si vous voulez, quand on remet le diplôme de Sciences Po, trois ou quatre fois, Richard Descoings a organisé des grands voyages, donc qui à Londres, à Berlin, à Bruxelles. À chaque fois, Guillaume Pépi a mis au service des étudiants les trains de la SNCF. Et puis, le soir de la mort de Richard Descoings, c'est le directeur de la communication de la SNCF qui vient à Sciences Po verrouiller la communication. Donc, si vous voulez, la vie privée, elle est quand même... Vous voyez, elle est à géométrie variable. Donc il le savait très bien, Guillaume Pépi. Donc il n'a pas... Il a rien dit, si vous voulez. Il a vu les patrons de presse en leur disant « Oh là là, ce livre, mais bon, voilà. » C'est tout.
Et le livre a un gros succès. Comment vous l'expliquez? Alors, sachant que Richard Descoings n'était pas forcément une personnalité grand public, on va dire, connue du grand public, mais c'est sa trajectoire, sa personnalité, son...
Bah, si j'en crois les lecteurs que je rencontre, hein, je pense que effectivement. Bon, sa trajectoire, c'est quand même un personnage très, très romanesque, hein, vous verrez. C'est vraiment très, très romanesque. Et je n'ai rien exagéré. Hein, tout est, mais je pense qu'encore une fois, ça dit beaucoup de notre époque. Et je pense que ça, c'est intéressant aussi de pouvoir comprendre comment fonctionne notre société, une part de notre société, en tout cas. Et un bout de nos élites à travers... un cas tout à fait concret et édifiant. Donc, je crois que c'est ça, à vrai dire, qui intéresse. Donc, c'est ma crainte, et je faisais attention à ça en l'écrivant. Je ne voulais pas que ça soit pris pour une histoire parisienno-parisienne, si vous voulez, qui se passe juste entre trois rues de Paris. Mais l'école du pouvoir, c'est très au-delà des trois rues de Paris. Si vous voulez, c'est ça... Ça donne le ton et le là de la façon dont sont formées les élites. Donc, c'est bien au-delà, si vous voulez, de ce petit quartier où est Sciences Po. Ça a un retentissement sur chacun d'entre nous, où qu'on soit en France. Donc voilà, je pense que tout ça, c'est parti. Et puis, ça raconte aussi, puisque vous avez parlé de l'homosexualité tout à l'heure, ça raconte aussi... la visibilité grandissante des homosexuels, parce que c'est une histoire vraiment de ces 30 dernières années. Je pense que elle n'aurait pas pu exister, si vous voulez, même juste après-guerre, par exemple. Donc c'est vraiment une histoire moderne, à vrai dire, de ces 30 dernières années, où effectivement les homosexuels sont plus visibles, ils ont plus de pouvoir, ils s'affirment plus. Et c'est aussi ça que ça raconte.
Et on vous a contacté pour une adaptation au cinéma ou
Oui. Ah. Donc il y a plusieurs projets là. On est en train de voir tous les projets possibles. Donc je ne sais pas, je peux pas vous dire tout de suite. Mais bon, il y a un projet très intéressant effectivement.
Sinon, moi je me demandais, est-ce que vous avez déjà choisi un sujet pour votre prochain livre?
Est-ce
que vous allez écrire à nouveau avec Ariane Chemin, comme ce fut souvent le cas? Oui.
Alors, on doit écrire un livre toutes
les
deux.
Ariane Chemin, qui est votre collègue au Monde.
Qui est au Monde, avec moi, qui est à la fois mon amie, ma voisine de bureau, et ma co-auteure souvent, enfin en tout cas par deux fois. Et donc, on va réécrire un livre toutes les deux, oui.
Et comment on fait pour écrire à deux, pour qu'il y ait une certaine homogénéité dans l'écriture, dans l'approche?
En fait, on se réécrit mutuellement.
D'accord.
C'est-à-dire que... Alors, quand on est vraiment en phase... Bon, d'abord, on s'entend très bien. Donc, ça compte. Enfin, je veux dire, quand on s'entend très bien, c'est pas seulement amicalement. C'est-à-dire, on partage la même vision du journalisme, de l'enquête et souvent la même compréhension de nos sujets. Donc ça, c'est important. Et ensuite, on n'a pas de vanité d'auteur quand on travaille toutes les deux. Donc on se réécrit mutuellement et sans difficulté. Et donc voilà, c'est ce qui fait qu'il y a une espèce effectivement d'homogénéité après quand le livre, enfin dans le résultat. Donc,
Madame, peut-être attendez le micro s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous entendre.
C'est Madame qui est là.
Merci. Je me pose la question, Madame, comme vous venez de le dire, il y a une trentaine d'années, un homme de cette qualité et de cette valeur professionnelle, intellectuelle, aurait-il pu atteindre cette ascension en tant qu'homosexuel? Est-ce qu'il aurait pu l'afficher? Non. Ça aurait peut-être nuit précisément à cette ascension. Je me demande si maintenant, au contraire, ça ne lui confère pas un statut particulier et une admiration. On peut se poser la question, c'est quand même... Ça a un côté un peu paradoxal quand même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Paradoxal, entre guillemets.
Alors, vous avez raison, c'est-à-dire que ça a contribué largement à sa popularité auprès des étudiants. Les étudiants trouvaient que c'était très cool d'avoir un directeur homosexuel, libre. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas si ça a contribué à sa carrière, si vous voulez. Encore une fois, je pense que le fait qu'il soit énarque et conseiller d'État a très largement assuré cette carrière. Donc, mais c'est vrai qu'il y a 30 ans, sans doute aurait-il dû plus le cacher. Encore que, il y a quand même eu toujours des homosexuels à la tête d'entreprises ou dans des responsabilités importantes. Mais effectivement, pas affiché, pas affirmé. Le petit cercle le savait. Mais là, lui, il en faisait une espèce d'affirmation très, très claire. Donc ça, c'est vrai que c'est l'époque qui le permet. Hein, et sans doute que ça n'aurait pas été le cas il y a quelques années. C'est la société qui a changé. Hein, donc c'est vrai. Et la société est plus tolérante. On peut s'en féliciter aussi.
Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à Raphaël Bacquet.